Amis auditeurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir sur Principe Actif 102.4 pour notre nouvelle émission mensuelle de vous à nous. On vous dit presque tout. On vous a parlé du bonheur, on vous a parlé de l'humour, mais est-ce qu'humour et bonheur ne nous sont pas donnés en héritage ? Est-ce que ça n'est pas une partie de notre patrimoine ? Vous savez, le patrimoine que nous ont donné nos parents, nos grands-parents et tous les anciens avant nous. Ce patrimoine qu'on garde précieusement pour le transmettre à nos enfants et à toutes les générations qui viendront. Eh bien, vous l'avez deviné, aujourd'hui, nous allons vous parler du patrimoine. Le patrimoine des vieilles pierres exposées dans les musées, les vieilles pierres des cathédrales, des châteaux, des édifices civils, militaires, religieux, mais aussi du patrimoine industriel et du patrimoine culturel, les chants, les contes et toutes les coutumes. L'émission a été préparée par toute l'équipe. Claude, Florence, Guy, Lucette, Marie, Marie-Claude, Michel, Pauline, Sylvie, sans oublier nos deux conseillers en communication et techniciens, Jean-Jean et Timothée. Cette émission sera émaillée de micro-trottoirs, de chansons, de textes et étayée par les interviews de nos trois invités, Marion Ossin, France de Bourguignon et Fred Grimaud. Certaines sont enregistrées, d'autres sont en direct. Maintenant, je laisse la place à Florence pour quelques définitions.
Bonjour à tous. Alors, ici Florence. Donc, moi, dans le thème du patrimoine, j'ai choisi une définition sur le conte, qui fait partie du patrimoine, bien sûr. Alors, ce qui a duré dans la mémoire des hommes, ce qui fait culture, paysage de la terre ou pays de l'esprit, ce qui peuple le voyage, les vies, la plénitude, le patrimoine, ce n'est rien que ce lien fragile de ce que nous sommes à ce que nous devenons. Alors maintenant, nous allons écouter un micro-trottoir, le premier de l'émission.
Si je vous dis patrimoine, oui. À quoi pensez-vous ?
Si c'est de la ville, ce sont tous les monuments, ce sont
le patrimoine, c'est
un peu l'histoire.
La première chose à laquelle on pense, c'est ça.
Oui,
c'est, le... c'est tous les monuments, mais après le patrimoine... Ça peut être aussi le patrimoine culinaire, le patrimoine culturel, des régions. Que, voilà.
Oui.
Avoir sa maison à soi, et puis le patrimoine de tout le monde, là, les monuments, tout ça.
Tout ce qu'on peut conserver, les choses, la richesse, là, oui.
Ce qu'il y a d'essentiel à la civilisation.
Alors, on va penser à la mairie, on va penser à la cathédrale. On va penser au théâtre, je crois, qu'ils sont en train de le refaire.
Tout ce qui appartenait déjà avant et surtout ça.
Oui, les bâtiments, l'histoire, la culture.
Patrimoine, c'est tous les monuments des villes, les abbayes, toutes les cathédrales et tout. Les maisons aussi, je sais plus.
Après la définition de Florence, après le micro-trottoir réalisé par Claude et Pauline, vous avez sûrement une idée plus précise de ce qu'est le patrimoine. On va écouter Marie-Claude, qui nous donne sa vision du patrimoine.
Bonjour. Patrimoine. Quand on entend ce mot, surtout après le 15 avril dernier, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, on voit de suite les vieilles pierres, les bâtiments à l'abandon, les églises, les châteaux, les ruines, etc. On pense à Stéphane Bern et son loto du patrimoine avec ses jeux à gratter. Mais aussi, on peut penser au patrimoine immobilier ou financier que l'on veut transmettre à ses descendants. Ou aux gènes que nos enfants héritent de nous à la naissance et qui s'appelle le patrimoine génétique, bon ou mauvais. Et puis, on élargit notre réflexion au patrimoine de l'UNESCO, qui représente tous les domaines et tente de protéger tous les aspects du vivant ou non, sur l'ensemble de la planète. Et là, on parle du patrimoine rural, artistique, immatériel, industriel, oral, culturel, environnemental, etc. En France, un organisme créé en 1996 regroupe tous ses aspects pour sauvegarder et restaurer tout cet héritage matériel et immatériel, civil et religieux, qui nous vient de nos ancêtres depuis des siècles. La fondation du patrimoine, qui se décline aussi dans chaque région et département. Mais elle n'est pas la seule. Des centaines d'associations existent pour sauvegarder et faire vivre tous ces chefs-d'œuvre en péril et ces traditions. Et nous aussi, nous avons un ministère de la Culture qui s'implique dans cette sauvegarde. Pourquoi s'inquiéter de nos patrimoines? Cela coûte beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de connaissances, beaucoup de place, et quelquefois bloque ou retarde un projet nécessaire à la vie quotidienne. Exemple, une petite fleur rare qui bloque l'installation d'un contournement ou d'un rond-point. Le choix est toujours difficile. Il faut savoir qu'un projet de restauration d'un monument, d'un lieu ou d'une tradition va générer la création ou la maintenance de bon nombre d'emplois. L'afflux de touristes est donc favoriser l'attractivité de nos territoires, préserver les savoir-faire et faciliter les transmissions culturelles. De plus, de nouveaux domaines sont inventés, à savoir le patrimoine mémoriel. La mémoire des gens sur un événement est recueillie et archivée pour les générations futures. Il n'y a donc pas de fin à la définition du mot patrimoine. Un individu, à plus forte raison un pays, sans racines, sans histoire, sans mémoire, et donc sans patrimoine culturel, aura des difficultés à trouver et garder sa place dans la société. La Normandie existe depuis plus de 1000 ans, et donc possède une histoire diversifiée, des monuments et des lieux qui ont fait la grande histoire, des coutumes et une cuisine connue dans le monde entier. Le Mont-Saint-Michel, le débarquement des Alliés, le camembert. Le patrimoine fait partie de notre ADN. La France, quant à elle, accueille plus de 80 millions de touristes chaque année, plus que notre population. Notre pays a créé dans les années 80 les Journées du patrimoine, reprises ensuite par l'Europe, puis par le monde entier. Cet engouement est toujours aussi vif chaque année avec près de 11 millions de visites. Ainsi donc, nous devons préserver ce qui nous vient du passé tout en préparant l'avenir des habitants. La terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants. Cette phrase attribuée à Saint-Exupéry trouve encore aujourd'hui sa place dans notre monde. Bonjour. Dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui sur le patrimoine, nous recevons Marion Haussan, c'est ça, adjointe de direction du comptoir des loisirs. Oui. D'abord, merci madame d'avoir répondu à notre invitation et de nous consacrer quelques instants.
Merci de m'avoir invitée.
Pouvez-vous vous présenter d'une part et nous parler de votre métier?
Oula, alors, donc Marion, du comptoir des loisirs, depuis 19 ans à Évreux. Donc le comptoir des loisirs, c'était avant l'office de tourisme. On a changé de nom l'année dernière, maintenant, depuis le 3 juillet 2018, quand on s'est installé au 11 rue de la Harpe. Et l'idée de notre nouvel office de tourisme, en fait, maintenant, c'est de plutôt s'adresser aux habitants, les gens qui consomment la ville d'Évreux au quotidien, plutôt que d'aller chercher des touristes et partir en conquête. On s'est dit qu'il fallait d'abord rendre la fierté à aux habitants de la ville avant de pouvoir accueillir, bah, du coup, fièrement les visiteurs et les touristes. Alors, mon job à moi, bah, c'est de parler à la radio, de parler aux journalistes, mais aussi pour la presse écrite, la presse web. Je m'occupe également des éditions. Donc, vous allez recevoir d'ailleurs prochainement, début juillet, le prochain magazine de l'Office de tourisme. Et je m'occupe également de la partie événementielle de l'Office de tourisme. Merci.
Alors, vous contribuez également à la mise en valeur du patrimoine. Alors, que faites-vous pour cela?
Alors, en termes de contribution à la valorisation du patrimoine, on accompagne notamment les actions de la mairie et de l'agglomération autour des actions de valorisation, de réaménagement. On est associé aujourd'hui au travail autour du label anciennement art et, ville et art et pays d'histoire, pardon, qui s'appelle maintenant Cité Monument. Donc, c'est un dossier sur lequel on travaille maintenant depuis quelques années et qui devrait aboutir d'ici 2 ans. Et puis, effectivement, sur les autres aménagements, on essaye de travailler autour de... Alors, je vais utiliser un mot du jargon, du benchmark, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu également ce qui se fait dans les autres destinations sur les tendances actuelles de valorisation du patrimoine.
Et donc, le périmètre d'intervention du comptoir des loisirs, vous en avez parlé, mairie agglo, oui. Mais un peu plus loin.
Alors, en fait, notre périmètre légal et administratif d'intervention, c'est le territoire, effectivement, de l'agglomération Évreux-Porte de Normandie, donc les 74 communes qui s'échelonnent entre, maintenant, de Tourneville, en gros, à Ménil-sur-l'Estrée, si on parle du nord au sud, et de Parville à Jouy-sur-Eure, si on est d'ouest en est. Donc 74 communes, 115 000 habitants, oui. Et un patrimoine bâti, rural, paysager et de terroir assez diversifié.
Et avez-vous été amené à faire un inventaire donc, de ce patrimoine pour pouvoir améliorer, on va appeler ça comme ça, votre intervention?
Alors l'inventaire, en fait, on l'avait travaillé déjà sur l'agglomération d'avant, où c'était juste la communauté d'agglomération d'Évreux. Effectivement, on avait une personne qui était attachée au développement et qui s'était occupée de l'inventaire du patrimoine. Et en fait, quand l'ex-agglomération des Portes Normandes a été intégrée, l'inventaire du patrimoine avait déjà été fait de leur part. Donc effectivement, on a récupéré tous les éléments sur entre guillemets, ce qu'on appelle le petit patrimoine, parce que c'est ce sur quoi principalement portent les inventaires et qu'il est plus difficile à établir, puisque ce sont des retables ou alors des chevets dans des églises, des petites communes.
Et la valeur du patrimoine, d'après vous, est-ce qu'elle est amplifiée par le nombre de visiteurs et de touristes? Est-ce que ça redonne une valeur, à votre avis?
Honnêtement, je vais vous répondre aujourd'hui que Barcelone ou Lyon vont vous dire complètement l'inverse, c'est-à-dire plus il y a touristes, plus ça dévoie le patrimoine et son aspect, en tout cas ce qui peut l'entourer. Nous, aujourd'hui, au contraire, on essaye d'attirer, donc, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt les gens qui habitent ici, parce qu'il y a beaucoup de nos 115 000 habitants qui n'ont pas connaissance de la valeur ajoutée et du beau patrimoine qu'ils ont. Donc effectivement, aujourd'hui, on essaye d'attirer les gens vers tout ce patrimoine.
Donc vous essayez au maximum de faire connaître.
C'est ça, patrimoine. C'est ça. C'est une de nos missions officielles, c'est effectivement la promotion autour du patrimoine notamment, hein, parce qu'on a aussi toute la partie loisirs. Mais les offices de tourisme, leur mission régalienne, ce sont l'accueil, l'information et la promotion de la destination touristique.
D'accord. Et pour vous, le patrimoine, quels sont les différents types ou type de patrimoine dont vous êtes en charge,
oui.
En fait.
Donc on a déjà cité le patrimoine bâti, donc là on est plus sur des monuments traditionnels, bon, par exemple religieux, la cathédrale, mais on a aussi en patrimoine bâti, on peut aussi parler de la médiathèque ou le cube, qui sont aussi des éléments de patrimoine beaucoup plus contemporains. Ensuite, on a le patrimoine naturel, bien évidemment, puisqu'on a de nombreuses zones classées ENS, espaces naturels sensibles, ou encore Natura 2000, donc qui sont protégées. Beaucoup de forêts également sur notre territoire. On a le patrimoine qu'on appelle plus gourmand ou de terroir, avec tous les producteurs locaux qui sont de plus en plus nombreux, et les restaurateurs aussi qui contribuent à une certaine idée du patrimoine. Et les patrimoines humains, puisqu'on a quand même aussi tous les savoir-faire et la valeur ajoutée des artisans qui sont sur la destination.
Et tout ce qui est traditionnel, à une époque, on parlait des danses traditionnelles. Bon, c'est peut-être plus le cas, mais il y a peut-être d'autres us et coutumes.
Alors là, sur Évreux et son agglomération, honnêtement, on n'a pas référencé d'us et coutumes vraiment très traditionnels. Après, on joue beaucoup sur les communautés qui sont sur Évreux. Donc on a des Normands, on a des Bretons, mais on a des communautés aussi, d'ailleurs, qui sont mises à l'honneur tous les ans à l'occasion de la fête de la fraternité.
Oui, absolument.
Et ça contribue effectivement au patrimoine humain dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que toute la destination, tout le territoire se construit autour de tous ces us et coutumes et évolue aussi en fonction d'elles.
Et êtes-vous amené à proposer des actions ou des festivals, des rencontres particulières tous les ans? Comment est-ce que ça se passe?
Autour de cette thématique-là?
Oui, autour de la thématique du patrimoine.
Autour de la thématique du patrimoine, oui. Nous, on travaille effectivement autour des animations qui sont principalement des visites. Donc là, par exemple, tout l'été, tous les samedis, on va proposer des visites guidées des thématiques d'Évreux principalement, donc autour de la période gallo-romaine, la période de la reconstruction, parce que c'est une période qui peine beaucoup les Hébroïciens, parce qu'ils considèrent que ça n'enjolive pas la ville, mais paradoxalement, on a quand même un bel exemple de reconstruction, à savoir quand même qu'Évreux était ville pilote, hein, parce que dès 1946, la reconstruction était partie.
Tout à fait.
Et puis, on a une autre visite guidée qui est beaucoup plus, je dirais, traditionnelle, puisqu'on va en fait raconter les 2000 ans d'histoire de la ville.
Oui.
Et on travaille également en partenariat avec la médiathèque et on va proposer deux balades contées. Je crois que ça rebondit un peu sur un de vos sujets. Donc dans le haut du jardin botanique et dans la résidence du préfet. Donc il y a un guide de l'office de tourisme qui sera présent et qui sera accompagné d'une conteuse pour enjoliver un peu les histoires de la ville autour de ces jardins.
Alors, un peu plus personnel, si je peux me permettre, à titre personnel,
quel
est le patrimoine qui vous tient le plus à cœur?
Alors, honnêtement, depuis un an, je suis donc au comptoir des loisirs, au 11 rue de la Harpe, et j'ai une vue magnifique sur la cathédrale et le musée et le miroir d'eau. Donc, c'est peut-être pas très insolite ou pas très original, mais j'ai l'avantage de le voir le matin au lever du soleil, le soir au coucher du soleil, par temps de pluie, par temps de soleil. Aujourd'hui, avec un... Bon, on est enregistré, hein, j'ose vous le dire, avec un ciel orageux. Donc, il y a des vues... La cathédrale change. L'arbre remarquable qui est devant la cathédrale change au fil des saisons. Et puis, de voir les gens qui passent la journée à faire des selfies devant la cathédrale, ça redore
aussi,
c'est magnifique.
Et le soir, avec les illuminations,
voilà,
c'est absolument
ça. Tout grandiose. Tout à fait. Donc, en fait, c'est un patrimoine qui est bâti, mais changeant. Donc,
dans un même temps, est-ce que vous estimez qu'à aujourd'hui, la ville d'Évreux et donc ses alentours, donc toute l'agglo, est suffisamment connue ou suffisamment développée sur le plan de connaissance des patrimoines?
Alors, on a un patrimoine assez impressionnant. Nous, on accueille beaucoup de groupes à l'année. Hein. On accueille une centaine de groupes, donc des personnes qui viennent en car d'ailleurs, et qui sont, qui sont agréablement surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à voir ce type de patrimoine sur Évreux. Donc, les gens ne viennent pas spontanément sur Évreux, sauf pour les fans de cathédrale, puisqu'on fait partie d'un circuit. Mais les gens qui y sont ravis, en repartent ravis et sont pressés de revenir pour en découvrir beaucoup plus.
Pensez-vous que, justement, on dit que Évreux n'est pas attractif? C'est la grande remarque négative que l'on fait pour accueillir les médecins, les ophtalmologues. Enfin bon, bref, hein, on sait de quoi on parle, hein, tous ici. Est-ce qu'il faudrait faire quelque chose encore plus pour retenir,
alors,
attirer tous ces gens?
La ville change, a beaucoup changé et va encore beaucoup évoluer, dans le bon sens. Donc là, ça n'est qu'un avis personnel, attention, je ne m'exprime pas forcément au nom du comptoir. Après, sur les métiers, comme vous les avez cités, on sait bien qu'ils sont tous plus tendance à aller vers le soleil et
absolument,
au sud. Donc ce n'est pas forcément tant Évreux qui fait qu'ils ne viennent pas. Mais l'attractivité de la ville, moi j'y vis. Il y a toujours quelque chose à faire, malgré ce qu'on entend aussi, que ce soit des visites, des expos, des concerts, des loisirs, on a du sport, on a tout ce qu'il faut sous la main, donc honnêtement, venez.
Merci.
Vous disiez que vous avez comme partenaire la médiathèque.
Oui.
Et avez-vous d'autres partenaires pour vous aider?
Bien sûr.
Oui.
Alors, on travaille bien évidemment avec toutes les parties prenantes de l'action culturelle de la ville. Donc, on a le musée, on a le Tangram, on a la médiathèque, le Cube bien évidemment. On travaille beaucoup avec les associations. Et puis, de plus en plus, avec notre arrivée au comptoir, effectivement, on a aussi des porteurs privés qui sont prêts à s'engager pour l'animation et l'attractivité de la ville et qui viennent nous voir pour leur donner un petit coup de main.
Ça, c'est bien, ça, par contre. C'était bonne nouvelle, tout ça.
Oui, tout à fait.
Bon, nous arrivons à la fin de notre interview. Bon, on vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, merci
de toutes ces informations. Vous avez dit au tout début que donc vous aviez changé et de nom et de lieu.
Oui.
Depuis un an.
Oui.
Voilà, c'est ça. Quel bilan en tirez-vous?
Alors, un bilan très, très, très satisfaisant. Le fait d'avoir déménagé, on attire beaucoup plus d'Hébroïciens. Donc, un de nos premiers objectifs est atteint. Et paradoxalement, quand on était place de la mairie, on n'était pas encore trop loin des axes principaux des visiteurs. Mais là, on découvre qu'il y a finalement, globalement, beaucoup de touristes. Donc, on va peut-être très vite, finalement, rechanger de politique pour les attirer. Et puis, donc, beaucoup de visiteurs, comme je vous le disais, beaucoup de porteurs privés ou même de porteurs d'associatifs qui viennent nous voir maintenant et qui prennent connaissance de notre existence. et du coup de tout ce qui est possible de faire à Évreux. Donc non, bilan très très satisfaisant.
Taux de fréquentation donc.
Ah bah les chiffres c'est pas évident parce qu'on a les gens qui entrent, les gens qu'on renseigne et tout ça, mais en gros pour vous dire sur 2017 pardon, on avait accueilli un peu plus de 17 000 personnes sur l'office de tourisme et l'année dernière, on a déménagé en cours d'année, on est à 41 000 personnes.
Ah oui, ça fait le doublement quoi.
Voilà, c'est ça. Très bien. Ça commence à parler.
C'est bien, tant mieux.
Votre nouvelle appellation.
Oui.
Moi, en tant qu'hébroïcien, puis j'habite pas loin de chez vous, d'après moi, ça a choqué pas mal de monde. Et c'est bien que moi, me prenant là-bas, beaucoup de gens me demandent où est l'office du tourisme. Et là, bonheur, disons, j'ai vu qu'il y avait des petits panneaux indiquant office du tourisme. Donc, vous avez...
Alors, c'est pas du tout un rétropédalage, c'est-à-dire qu'effectivement, pour les gens qui sont en visite dans la ville, donc les touristes, les visiteurs, ils vont chercher un office de tourisme. Donc, pour le jalonnement piéton ou la signalétique routière, effectivement, on a indiqué office de tourisme. Paradoxalement, pour attirer les gens qui habitent dans une ville, si on leur parle tourisme, ils ne se sentent pas concernés. Donc, on a pris le parti de changer de nom et de plutôt axer nos informations sur le loisir. Si les personnes qui viennent chez nous ne savent pas qu'elles sont à l'office de tourisme et qu'elles habitent Évreux, ça n'a pas globalement d'importance, puisque nous, l'idée, c'est de proposer et de propulser tous les loisirs et toute l'offre qu'il y a sur Évreux. Mais effectivement, pour la signalétique, on est resté sur un office de tourisme, puisque c'est beaucoup plus simple pour les gens de passage.
Merci beaucoup de votre participation. On est beaucoup plus informés maintenant du contenu des comptoirs des loisirs. Et nous invitons vraiment l'ensemble des Éboréiciens et de l'agglo à aller faire un petit tour au comptoir des loisirs.
Merci
madame. Au revoir.
Merci
à Marie-Claude et à Guy pour leur interview de Marion au sein du comptoir des loisirs d'Évreux. Et maintenant, Pauline, qui a une passion pour les jardins de Villandry, tient absolument à vous faire partager son enthousiasme.
Bonjour. Aux portes des vacances, je vous emmène en parole visiter le jardin du château de Villandry, situé en Indre-et-Loire. Villandry est une commune à 15 km de Tours, sur le Cher. Le château a été bâti pour Jean le Breton, qui fut secrétaire d'État de François Ier vers le milieu du XVIe siècle. Les jardins ont été complètement reconstitués suivant le plan du Moyen-Âge, excusez-moi. En effet, Charles VIII s'est totalement enthousiasmé pour les jardins à l'italienne lors de son séjour là-bas. Ainsi, ceux de Villandry sont aussi sous cette influence et s'enrichissent d'une fontaine, tonnelle et carré fleuri. Le jardin utilitaire se transforme donc alors en jardin d'agrément. Le jardin est planté de légumes pour le potager ou formé de parterres de broderies végétales pour le jardin d'ornement. Les plantations respectent les contraintes d'harmonisation des couleurs et des formes et suivent donc les saisons. Le potager est le point d'orgue du jardin de Villandry. Il se compose de plusieurs carrés qui diffèrent tous, mélangeant fleurs et légumes. Ainsi, le bleu des poireaux, le rouge lit de vin des choux et le vert des fans de carottes donnent l'illusion d'un damier multicolore. Les moines aimaient disposer leurs légumes selon des formes géométriques. Des rosiers-tiges sont implantés aux quatre coins des carrés et, selon la légende, représentent les moines au travail. Les nombreuses croix qui forment les allées nous font souvenir de cette origine monacale. Vous pourrez aussi découvrir le jardin des simples. Il est consacré aux herbes aromatiques, condimentaires et médicinales. Celles-ci sont installées au sein de parterres séculaires, symboles d'éternité. Une trentaine de variétés de plantes peuvent s'y voir. Rappelons que les plantes furent très tôt l'objet d'expéditions et d'échanges dès le XVe siècle. Impossible d'éviter le jardin d'ornement que vous pourrez pleinement découvrir de la terrasse du château. L'aménagement de cette partie des jardins est l'œuvre de Lozano, artiste peintre sévillan. Elle est composée de 4 carrés dont les végétaux dessinent des formes géométriques qui constituent les jardins d'amour. En premier lieu, l'amour tendre, où l'on entrevoit des cœurs, mais aussi des masques que l'on portait lors des bals et permettaient toutes sortes de confidences. Puis, l'amour passion, où figurent également des cœurs, mais mêlés à des labyrinthes qui évoquent le tourbillon de la passion. Vient ensuite l'amour volage. Là se dessinent des éventails qui symbolisent la légèreté des sentiments. La couleur dominante est le jaune, qui traduit l'amour trompé. Enfin, l'amour tragique, représenté par des poignards et des glaives utilisés au cours des duels, causés par les rivalités amoureuses. La couleur dominante est le rouge, qui rappelle le sang versé. Vous ne pourrez pas visiter ce merveilleux jardin sans vouloir vous amuser à vous perdre dans le labyrinthe végétal qui symbolise l'homme qui progresse et qui accueillait des jeux galants. Enfin, cette visite toute mentale s'achève par le jardin du soleil où peut être admiré un bassin en forme d'étoile à 8 branches qui représente le soleil et dont une partie, dite la chambre des enfants, les accueille avec des jeux de plein air. Pour finir, quelques renseignements techniques. 2 plantations sont effectuées, l'une au printemps, l'autre en été. 40 espèces de légumes sont utilisées chaque année. Une rotation triennale est appliquée pour ne pas appauvrir le sol. L'irrigation des lieux est assurée par un système d'arrosage automatique enterré. Enfin, les méthodes de travail ont été pensées pour éviter tout traitement chimique. Avant de vous quitter, je vous convie à vous rendre à l'aide de votre moteur de recherche sur le site du château de Villandry ou bien d'aller dans une bibliothèque pour découvrir ce lieu d'exception. Bonne visite, réelle, virtuelle ou livresque. Au revoir.
Et bien maintenant, nous allons aborder le patrimoine culturel, les contes en particulier. Et c'est France de Bourguignon, présidente de Relais du Conte de Sierret, qui va répondre aux questions de Florence et de Sylvie.
Alors, en préambule donc de notre interview, je vais vous lire un texte écrit par Rémy Prin dans Paroles et patrimoine sur la poésie et que j'ai adapté au conte. Comme le patrimoine, le conte est en sursis, constamment, ici dans la précarité de la parole transmise, là dans celle de la pierre qui s'érode. Toujours en menace d'oubli, le patrimoine a besoin de la parole qui seule irrigue la mémoire, lui donne sens, comme le conte donne sens au monde, agrandit l'entour des lumières des jours. Bonjour Madame France de Bourguignon, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors déjà, une question pratique, depuis quand existe l'association Le Relais du Conte et en êtes-vous la fondatrice ?
Merci, et d'abord, j'ai l'impression que vous avez déjà tout dit. Donc, Le Relais du Conte existe depuis 22 ans, mais en réalité, il est le résultat d'une longue renaissance, comme celle que vous avez évoquée, qui date des années 70, ce qu'on a appelé le renouveau du conte. Et pour aller plus vite, certaines personnes comme Bruno de la Salle, comme Henri Gougaud et d'autres, et tant d'autres, se sont intéressés à nouveau au conte. Et le conte est devenu à la fois un objet d'étude, mais aussi un objet de nouveau racontage. Et il y a donc une vingtaine d'années, dans le département de l'Eure, la médiathèque départementale a lancé une action en faveur du conte pour former les bibliothécaires des bibliothèques du réseau départemental. une trentaine de personnes ont été formées dans les bibliothèques du réseau. Et à Sierrey, les bibliothécaires ont décidé de former une association. Une association destinée à les raconter. Et depuis 22 ans, donc, cette association, le Relais du Conte, existe et s'acharne, se destine à les raconter au long du département et même plus loin. Sachant que ça ne se limite pas au département, puisque dans la région normande, avec tous les départements de la région anciennement Basse et Haute-Normandie, il y a, on peut compter, je sais pas, on peut dire entre 80 et 100 conteurs amateurs qui se réunissent régulièrement pour se retrouver, se former et poursuivre leurs activités.
Très bien. Donc vous avez déjà répondu à la deuxième question que je voulais vous poser. Donc je vais passer à ma prochaine question. Quel lien faites-vous entre le conte et le patrimoine ?
Ah là là, je vous dis, vous l'avez déjà dit. Dans toutes les définitions qui ont été données tout à l'heure, le conte était là. Hein, le conte était présent. Si on dit que le patrimoine culturel, hein, on dit que c'est ce qui fournit aux sociétés des ressources héritées du passé. Si on dit que dans le présent, ça met à disposition le bien des générations à venir, le conte est là. Si on dit qu'il faut donner accès à la diversité culturelle, il faut contribuer à l'élaboration d'un sentiment d'appartenance individuelle et collectif, le conte est là. Si le patrimoine doit contribuer à la cohésion sociale, c'est aussi le conte. En réalité, moi, je ne dirais pas le conte, je dirais plutôt la littérature orale. Vous avez parlé de la parole, exactement, c'est la parole qui compte, hein. La parole conteuse, comme on l'appelle. Et cette littérature orale, ce sont les contes proprement dit, les mythes, les légendes, les proverbes, les ditons, les devinettes, les formulettes, les prières, les chansons populaires. Hein ? Si vous commencez à chanter, par exemple, cette chanson que vous devez connaître, « Brave marin, reviens de guerre, tout doux », ça y est, vous avez une histoire. Si on se met à chanter « Fille qui est à marier », vous vous dites « Voilà une histoire qui commence ». Vous voyez ? Donc tout ça fait partie du même corpus, la littérature orale.
Voilà, alors une question qui pourrait intéresser nos auditeurs qui souhaiteraient devenir conteurs. Quelles sont les qualités d'un conteur et est-ce que tout le monde peut être conteur ?
Non, tout le monde ne peut pas être conteur.
Au moins, c'est clair.
Non, voilà. Je ne pense pas, sincèrement. Et il n'y a pas de mal à ça.
Ah non, pas du tout.
Bon, le conte est de l'ordre de la création aussi, de la transmission, mais demande des qualités. Tout le monde ne peut pas être artiste, mais tout le monde peut apprécier l'art. Donc tout le monde ne peut pas être conteur, mais tout le monde doit entendre des contes. Et qu'est-ce qu'on veut dire aussi par être conteur ? C'est tellement vaste. Il est indispensable que le conte existe dans les familles. Il est indispensable que les parents, que les grands-parents, que les nounous racontent des contes aux enfants. C'est indispensable. Ce n'est pas pour ça que ces personnes deviendront conteurs. Hein. Mais néanmoins, la parole conteuse sera là. La littérature orale sera présente, puisque ces contes, qu'est-ce que ce sera ? Ce sera des contes trouvés maintenant, parce que la transmission orale ne se fait plus comme autrefois, dans les livres. Les contes, maintenant, on les trouve dans les livres. Ils sont là, ils nous attendent. Mais ils attendent, pas forcément qu'on les lise, mais aussi qu'on les fasse vivre et qu'on les raconte. Parce que raconter, c'est parler du cœur au cœur.
Alors, auriez-vous d'emblée un conte à nous dire en rapport avec le patrimoine ou autre ?
Alors là, vous me prenez court, j'en ai tellement, je ne sais pas lequel je vais prendre. Je dispose de combien de temps ?
Oh, allez, on va dire.
Vous avez du temps.
Une minute ? Un peu plus. Oui. Allez, si, si, oui.
Et ça me permet de parler du temps, parce que vous voyez, la littérature orale, c'est aussi le temps, c'est-à-dire le temps mythique, hein, ou le temps des origines. Quand on commence un conte, c'était le temps où les bêtes parlaient. Hein. Si on parle des contes merveilleux, c'est « il était une fois et il n'était pas ». Hein. Et cette formule, on la trouve dans le monde entier. Les contes sont universels. Vous avez aussi le temps historique. Hein. C'est celui d'une société qui raconte. Cette histoire s'est passée au moment où l'hiver n'avait pas fini et où on craignait une grande famine. Ça y est, on est dans une histoire de guerre, on est dans une histoire de disette. Ou bien alors, c'est le temps familial. C'était le temps où mon... C'est une histoire que le père du grand-père de mon grand-père m'a racontée. Donc, on le met dans le vrai, mais néanmoins, c'est ancré dans une histoire de la famille, c'est de la transmission. Et puis, vous avez aussi le temps personnel. De mon temps, c'était bien mieux que maintenant. Les filles étaient un peu plus sages et les garçons... bon. Et ça, c'est complètement faux, parce que ceux qui entendent ça et qui disent « oh là là », ils diront la même chose quand leur temps viendra. Hein. C'est un temps nostalgique. Mais néanmoins, ce temps, c'est un temps de la mémoire qui nous situe dans la durée et qui nous permet d'échapper au temps qui passe. Hein. Quand on a raconté un conte, on entend souvent « Ah, j'ai pas vu le temps passer hein. ». Avant de vous raconter quelque chose assez brièvement, il y a une chose à laquelle je tiens énormément. Les contes ne connaissent pas de frontières. Hein. Les contes, ils nous incitent à ouvrir nos portes, à ouvrir nos cœurs. Et le conte, il nous incite à accueillir la parole de celui qui vient de loin. Parce que les contes, le petit chaperon rouge, on en trouve, dit-on, au moins 500 versions différentes à travers le monde entier. Hein. C'est une parole humaine. Et c'est en ça que ça se raccroche, je pense, au patrimoine. C'est que le conte se rapproche à l'humanité. C'est un trésor de l'humanité. Alors, j'ai encore combien de temps pour vous raconter un conte ? C'est l'histoire de vérité et mensonge. Il y avait un fleuve. Et de part et d'autre de ce fleuve se trouvait une cabane de chaque côté. Dans l'une vivait vérité et dans l'autre, mensonge. Ils ne se connaissaient pas. Et ils avaient des longs cheveux qui traînaient jusqu'au sol. Et un jour, savez-vous pourquoi, je n'en sais rien, ils ont décidé de se faire une coiffure. Alors ils ont tressé, ils ont tournicoté, ils ont inclus des fleurs. Et puis ça leur a fait comme une espèce d'immense monument sur la tête. Ils étaient très contents, mais ils avaient oublié de faire leur toilette. Alors ils se sont approchés du fleuve, chacun de leur côté. Et puis, ils ne pouvaient pas enlever leur tunique. Ce n'était pas possible avec la coiffure qui s'était faite. Pas question de la démolir. Puis la tunique, ben, elle ne passait pas. Alors, je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous, mais eux, en ce temps-là, ben, ils ont pris leur tête, puis ils l'ont posée sur le bord du fleuve, et puis ils se sont plongés dans l'eau. Et ils ont commencé à se laver. Et Vérité a eu l'impression de sentir une présence. Il a tendu le bras et il a touché Mensonge. Il lui a dit « Tu es qui, toi ?» Alors, Mensonge lui a répondu, je suis vérité. Bah, tu n'es pas vérité, c'est moi qui suis vérité. Non, non, c'est moi qui suis vérité. Mais enfin, depuis quand tu es vérité? Bah, depuis que je suis né. Alors, dans ce cas-là, quand la parole ne passe pas, on se bat. Ils se sont mis à se taper dessus, à faire de grands bouillonnements, et ils n'en sortaient pas quand une femme, qui passait par là, a voulu les séparer. Alors, elle est allée vers eux, au milieu de l'eau, elle n'en a récolté que des coups. Alors, elle est allée d'un côté, elle a pris une tête. Elle est allée de l'autre côté, elle a pris l'autre tête. Et puis, elle les a posées sur les corps. Alors, est-ce qu'elle ne s'est pas trompée par hasard? Eh bien, l'histoire ne le dit pas. Mais depuis ce temps-là, on peut croire que discerner entre vérité et mensonge, vous savez combien c'est difficile. Et que depuis, il y a un proverbe ou une parole qui dit que vérité et mensonge habitent la même maison et passent la même porte.
Merci beaucoup.
Bravo.
Merci beaucoup pour cette belle intervention. Hein. France de Bourguignon, écoutez, notre interview se termine. Nous vous remercions de votre intervention et de votre gentillesse et de l'avoir éclairé notre journée. Merci.
Ils viennent de très loin, ils viennent d'avant. Ils viennent d'un pays paysan où il fallait apprendre à se baisser pour fendre la terre ou pour ramasser le sel que la mer a jeté. Regard très long et photo passé, sans peine, sans joie ni regret, le complet du mariage et les robes blanches ne sortent plus guère que pour les dimanches, avec un air de s'excuser. Un jour ou bien un autre, quand la vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
Lenteur des collines et force du vent, chaude braise au fond du sabot, sagesse des histoires qu'ils ont racontées, pour se souvenir, se réchauffer et ne plus jamais oublier. Un jour ou bien un autre, quand la vie m'aura pris toutes mes certitudes, j'irai les écouter, j'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens.
Ils viennent de très loin, ils viennent d'avant, ils viennent d'un pays paysan.
Merci à Evelyne Girardon, chanteuse traditionnelle qui interprétait à l'ombre de la patience des anciens. L'intervention de Guy sur la forêt sera suivie de l'interview de Fred Grimaud.
Merci. Alors après ce merveilleux propos de Madame France Bourguignon, qui est plutôt dans l'abstraction et dans l'imagination, moi, quand j'ai pensé patrimoine, je pense à la forêt. La forêt est un patrimoine national, également patrimoine communal. D'après mes recherches sur Internet, la surface de forêt en France est de 16,9 millions d'hectares. En Normandie, 407 000 hectares. Dans l'Eure, 132 000 hectares. À Évreux, le bois de la Madeleine, 406 hectares. Et le bois de Saint-Michel, 106 hectares. Tout le monde sait que la marche, c'est bon pour la santé. Cependant, la pratiquer en forêt optimise les bienfaits de cette activité. Pour prendre un bain de forêt, il suffit de ne rien faire d'autre que d'être attentif à ce qui se passe en nous et autour de nous. Besoin de s'évader, réfléchir, se retrouver, s'inspirer, imaginer, regarder, observer, écouter, embrasser, rêver, aimer. Seul ou à deux, la forêt, la promenade en forêt par ses vertus nous offre ces belles conditions de bien-être. Albert Samain, poète, né à Lille en 1858, mort en 1900, à Magny en Hameau, dans les Yvelines, nous sensibilise par sa poésie, et dans sa poésie, il s'adresse à la forêt. à toi, forêt. Vaste forêt, forêt magnifique et forte, quel infaillible instinct nous ramène toujours vers vos vieux troncs drapés de mousse et de velours et vos étroits sentiers feutrés de feuilles mortes. Le murmure éternel de vos larges rameaux réveille en nous, comme une voix profonde, l'émoi divin de l'homme au premier jour du monde, dans l'ivresse du ciel, de la terre et des eaux. Quand le vent frais de l'aube au feuillage circule, vous frémissez au cri de mille oiseaux joyeux. Et rien n'est plus superbe et plus religieux que votre grand silence au fond du crépuscule. Être, charme, bouleaux, vieux troncs couverts d'écailles, piliers géants tordant des hydres à vos pieds, vous tentez la foudre avec vos fronts altiers, chaînes de 500 ans, tout labouré d'entailles, vivez toujours puissants et toujours rajeunis, déployez vos rameaux, accroissez votre écorce et versez-nous la paix, la sagesse et la force, grands ancêtres par qui les hommes sont bénis.
Bonjour, à l'antenne aujourd'hui, Pauline et Michel. Dans le cadre de l'émission sur le patrimoine, nous avons déserté les locaux principes actifs et nous sommes venus à Navarre, dans la Galerie des Arts, où nous accueille le photographe Frédéric Grimaud pour répondre à nos questions sur son exposition qui a pour thème les usines de Navarre. Si mes souvenirs sont bons, cette expo a été inaugurée le 17 mai.
Le 18.
Ah, il me semblait que c'était samedi. Le jour de l'anniversaire de mon mari, moi.
Non, c'était le samedi 18 à 17h. Donc le samedi 18 à 17h. Et oui, effectivement, il y avait beaucoup de monde. C'était rempli, en fait. Donc,
Quel a été votre parcours pour en arriver à faire de la photographie sur les friches industrielles?
Mon parcours pour les friches industrielles, je dirais mon parcours global, c'est en gros un DUT de biologie appliquée pour faire des analyses dans un laboratoire. Et puis ensuite, j'ai bifurqué par passion. La passion est arrivée en 97, en seconde année de mon IUT. Et puis ensuite, j'ai terminé mon DUT, mon bac plus 2. Et puis, j'ai décidé en fait de me lancer dans la photographie et d'en faire mon métier. Donc c'était un long parcours. J'ai pas commencé par les friches, en fait. Oui. Mais les friches, je les ai découvertes avec La Boucle, l'artiste graffeur et peintre. Parce qu'en 2005, on a fait un livre ensemble sur les friches et des photographies d'usines en friche. Et on l'a sorti en 2006. Et voilà, c'est comme ça que j'ai continué ensuite mon travail sur les lieux abandonnés.
Qu'est-ce qui vous avait incité à vous intéresser particulièrement aux usines de Navarre?
Alors, les usines de Navarre, pourquoi? Parce que déjà, j'ai habité le quartier de Navarre enfant. J'ai habité dans deux maisons différentes. Et puis, donc, quand je me promenais dans la rue, j'entendais des bruits. Je savais qu'il y avait une usine, mais c'était très abstrait pour moi, enfant. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à faire des photographies de lieux abandonnés, et ben, je me suis rendu dans ces usines à partir de 2005-2006 jusqu'à 2019. Et donc, après, pourquoi cette exposition-là précisément? Parce que l'an passé, La Boucle était invitée d'honneur de Navarre de Rue en 2018. Et comme on avait sorti le livre... et puis qu'on est à Navarre, je me suis dit, voilà, le lien est tout trouvé, je vais faire quelque chose de très précis, mais donc sur les usines de Navarre. Et je ne voulais pas que ce soit conventionnel, donc j'ai fait tout un tas de choses que je vais vous expliquer après.
Donc, qu'avez-vous appris sur l'historique de ces usines? Nous avons pu voir sur un de vos montages que leur logo était l'abeille. Savez-vous pourquoi?
Ah oui, alors l'historique, il y a beaucoup de choses à dire, mais alors pourquoi les abeilles? Parce que au départ, Napoléon était marié à Joséphine de Beauharnais, qui avait un château à Navarre.
Oui.
Et donc, à la séparation de Napoléon et de Joséphine, il a laissé le château à Joséphine. Et en fait, les abeilles ont été repris en symbole pour les usines parce que ça symbolise l'empire, le travail et la fécondité, en gros.
Oui, le travail, on peut comprendre. Après, la fécondité, parce qu'ils travaillaient beaucoup.
Oui, mais c'est ce qui se dit, voilà.
C'est ce qui se dit.
Qu'est-ce qu'on y faisait dans ces usines de Navarre?
Alors, dans les usines de Navarre, au tout début, donc ça, les terrains datent de 1834. Donc ça a commencé par une quincaillerie, après ils ont fait de l'acier. Et ensuite, ça s'est transformé en fonderie de laiton et de cuivre. Et dès 1860, ils ont commencé à fabriquer des dés à coudre. Et puis ensuite, des lampes pigeons, des réchauds, des gonds de porte. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu des éléments de parapluie. Toutes les charnières des deux chevaux ont été fabriquées aux usines de Navarre à Évreux. Et puis, pendant la guerre, des percuteurs de bombes. Et là, c'était vraiment... C'était l'époque où il y avait le plus d'activité dans les usines, en fait.
Vous présentez divers objets mis en scène. Parviennent-ils tous des usines de Navarre? Je crois que vous êtes un collectionneur.
Alors, c'est vrai que j'ai l'âme du collectionneur. Et puis, tous les objets ne viennent pas de Navarre. Il y a des objets qui m'ont été prêtés aussi, comme les louches qu'on voit là-bas, qui sont très lourdes et qui appartenaient à un fondeur qui habite aux Ventes, qui a fait plus de 20 ans de fonderie.
Oui, c'est pour montrer l'exemple de ce qu'on pouvait faire en fonderie.
Oui, pour montrer des objets qu'on pouvait trouver dans les usines. Donc je montre des photographies sur différents supports, en bois ou en métal, que j'ai trouvé ici à droite à gauche. Zut, il y a un téléphone qui sonne. Après, j'ai fait différents assemblages, comme des lampes, des collages aussi avec des objets que j'ai récupérés dans des friches, dont... différentes fonderies aussi. J'ai fait un assemblage, alors j'appelle pas ça sculpture, mais c'est plutôt un assemblage avec des objets que j'ai trouvés par terre dans les usines et qui représentent en fait ma manière de montrer et de représenter les usines par un assemblage d'objets qui proviennent de là-bas.
Ah oui, d'accord.
Donc il y a une lime, il y a du verre, il y a du métal, il y a une sorte de pierre qui... Enfin, je pense que c'est un rebut de fonderie. Donc, je pense que c'est à moitié métal, pierre, je ne sais pas vraiment. Donc voilà, c'est des éléments en fait que j'ai nettoyés, que j'ai vernis et puis que j'ai collé.
Oui. Oui, alors la serrure, c'est la porte de l'usine et puis c'est la cheminée, non?
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de cheminées.
Oui. Par endroits, on aperçoit des touches de végétaux. À quoi ça correspond?
Oui, exact, bonne remarque. Alors, les végétaux, la plupart viennent des usines. Je les ai déplantés et puis je les ai replantés dans des petits pots en verre ou un vieil appareil photo dans lequel j'ai mis de la terre. Ça représente en fait la nature qui reprend ses droits et puis dans ces lieux qui sont inhospitaliers au premier abord, on trouve toujours des endroits de nature, de végétation qui sont paisibles. Et on se sent en fait même très bien dans des lieux comme ça, où on entend les petits oiseaux, les feuilles qui bougent.
Mais ces lieux pourtant sont interdits au public. Il y a même des pancartes qui disent « danger de mort ».
Oui, c'est interdit, oui, mais moi j'ai eu des autorisations pour y aller. Donc à l'époque, j'avais la SADN. Et puis là, dernièrement, j'ai fait du drone, donc j'avais contacté la base, la préfecture, la mairie, et puis ça s'est fait comme ça.
Ok, merci. Nous avons pu voir sur certaines photos la présence d'un arrière-plan où figurent des croquis industriels. Comment avez-vous procédé pour cette juxtaposition?
Vous voyez, par là, celle-ci.
Oui, exact. Alors, cette photographie est vieille. Elle date, je dirais, de 2010. Donc on voit une photographie plan large d'un intérieur des usines avec des colombages en bois. Et puis par-dessus, j'avais photographié un plan que j'avais trouvé par terre, un plan de machine, plutôt de moteur.
Oui, oui.
Et donc je les ai assemblés sur ordinateur avec des modes de transparence et de fusion. Pour rendre cette atmosphère à la fois de superposition, en fait, de montage photographique.
Oui, donc vous faites appel à la technique moderne. Oui. Quels sont vos choix techniques ? Le numérique, l'argentique ? Procédez-vous à des retouches, des filtres de couleurs ?
Alors, j'ai fait du numérique et de l'argentique. L'argentique, je l'ai fait essentiellement en format carré avec un relais flex. Très connu dans le milieu. Les retouches, oui, j'en fais tout le temps parce que j'éclaircis des zones sombres, je densifie des zones trop claires. Les couleurs, je les retouche pas. Je fais le minimum en fait. J'évite de trop retoucher. Après, quand il y a des superpositions, ça crée un effet un peu plus sombre et un petit peu plus dense, un petit peu plus contrasté. Mais ça c'est dû à la superposition d'images.
Oui, parce que sur une, les couleurs sont vraiment très vives et belles. Il n'y a pas de retouche de couleurs.
De mémoire, je ne crois pas. C'est le mode de fusion des deux images qui crée en fait un mélange aussi de couleurs.
Ah oui, d'accord. Bah oui, d'accord.
Bien, personnellement, cette expo, qu'est-ce qu'elle vous a apporté?
Peut-être une révélation sur des pratiques que j'osais pas montrer ou même faire, comme les assemblages, comme réutiliser des fenêtres, des couvercles de boîtes industrielles pour fixer mes photographies dessus. Ça m'a ouvert en fait sur d'autres manières de faire et de présenter un travail photographique. Et puis ça m'a apporté aussi beaucoup de choses par rapport aux commentaires des gens, que ce soit des enfants de 5-6 ans jusqu'à des personnes âgées. Tout le monde était émerveillé et ébahi devant cette diversité. Et je dois dire qu'au départ, quand j'ai commencé en fin août 2018 à cogiter à tout ça, plus le temps passait, plus j'avais des idées, mais plus aussi je me disais comment ça va être accueilli, est-ce que je le fais, est-ce que je reste dans une exposition standard. Et puis finalement, j'ai bien fait de le faire, parce qu'il y a une dame qui m'a dit qu'elle avait... que ça lui avait redonné le goût de rêver de nouveau. Donc c'est quand même magique. Hein. Ouais. Après, qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Un contact différent avec ma fille aussi, qui m'a aidé pour monter cette exposition-là. On a fait des collages ensemble. Elle a tenu la caisse pendant le vernissage. Voilà, c'était des rencontres aussi avec les personnes que j'ai interviewées, des anciens des usines qui m'ont ouvert leurs portes. Qui étaient très, très accueillants, très gentils, et qui m'ont parlé, qui m'ont dit des choses incroyables sur les usines. J'ai des heures et des heures d'écoute. Donc c'était une aventure incroyable.
Avant de partir, est-ce que nous avons oublié quelque chose, une question, quelque chose que vous voudriez rajouter?
Alors oui, comme on est dans le patrimoine, dans cette émission, les usines, les terrains faisaient 17 hectares. Il me semble qu'il y avait 7-8 hectares de bâtiments industriels. Qui ont été fabriqués avec des constructions Eiffel. Donc voilà, les constructions métalliques à l'intérieur, oui, c'était Eiffel. Donc un patrimoine riche, et voilà, j'espère qu'on va garder quelques éléments, parce que ce serait dommage de perdre encore quelque chose.
Bien, avant de vous quitter, j'espère qu'on n'a pas trop abusé de votre temps.
Pas du tout, c'est un grand plaisir toujours.
Nous vous remercions de nous avoir accueillis dans ce lieu et d'avoir répondu aussi gentiment à nos questions. Une dernière question pour nos auditeurs.
Oui.
À quel moment, quel jour et à quelle heure peut-on visiter cette expo?
Alors, l'exposition donc, est visible à Navarre, place Bertrand-du-Pouget, à gauche de la Petite Poste. Les mardis de 16h à 19h, les mercredis matins de 9h à 12h, jusqu'au 27 juillet. Et ensuite, il faut téléphoner à l'amicale pour des rendez-vous personnalisés ou me téléphoner aussi pour voir l'exposition. Et voilà, j'espère qu'il y aura encore beaucoup de monde.
Merci à Pauline et Michel pour leur interview. Notre émission va se terminer, mais n'oublions pas les bonnes nouvelles de Sylvie.
Bonjour. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle est issue du magazine Être Plus Magazine d'avril 2019 et nous concerne tous. Lancé en 2015 au Pakistan, le projet Tsunami d'un milliard d'arbres a récemment atteint son objectif ambitieux. Plus d'un milliard d'arbres ont été plantés dans la région de Peshawar, financés à hauteur de 169 millions d'euros. Ce projet colossal a permis de créer de nombreux emplois et contribue essentiellement à atténuer les effets du changement climatique, à réduire les inondations, en solidifiant les bords des rivières, à réduire l'érosion des sols et à fournir un nouvel habitat pour la faune, l'homme. À l'origine de ce programme, Imran Khan est entre-temps devenu Premier ministre et a annoncé vouloir aller plus loin. Il projette de planter 10 milliards d'arbres dans le pays d'ici 5 ans. Comme vous voyez, soyons optimistes. Beaucoup d'initiatives judicieuses, innovantes, ambitieuses parcourent le monde. Je vous dis à bientôt pour une prochaine bonne nouvelle. Chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. Nous avons pu évoquer quelques différentes facettes du patrimoine, telles que la culture, les châteaux et leurs jardins, les monuments historiques, les sites naturels, industriels. Nous remercions nos invités Marion Haussin, adjointe de direction au comptoir des loisirs d'Evreux, France de Bourguignon, présidente de l'association Le Relais du Comte à Siret, Fred Grimaud, photographe, ainsi que toute l'équipe présente aujourd'hui, Lucette, Florence, Claude, Marie, Guy, Michel, Pauline, Sylvie, Marie-Claude et à la technique, Jean-Jean et Timothée. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous vous retrouverons avec plaisir sur les ondes de Principe Actif pour notre prochaine émission le 18 juillet à 12h30 afin d'aborder un nouveau sujet. Bonne journée à tous.